1, 2, 1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix plus claire?
Good morning, Vietnam!
Are you ready, bro?
Tonight we present a very warm little story called Kill with Time.
On a un intro dans le studio, on laisse voir, on lui met un casque, il parle dans le micro.
Il suffit que tu fermes ta gueule. Chaque fois, je te laisse la mentale. But the people love to rock and to roll. I listen to
radio rock and I'm the count.
C'est cool, ça va arriver, les voisins.
Salut, auditeurs du 99.9, vous êtes sur PFM avec votre émission Les Décadrés.
Oui, oui.
Putain, quel synchro.
Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition d'émission Les Décadrés, en compagnie de Benjamin.
Bonsoir.
Et en compagnie de Ange.
C'est moi.
Et en compagnie de Antoine, votre fidèle serviteur pour cette émission.
Moi, je voudrais dire bonsoir aussi à la petite souris qu'on entend tout le temps cliquer dans notre émission et qui est là et qui nous dit bonjour.
Ah, ça, c'est un...
voilà.
Ça, c'est un défaut technique, malheureusement. On n'est pas, on n'est pas passé pro. Hein.
Non, mais moi, j'aime bien cette petite souris. Ouais. Ça fait un petit, ça habille un peu l'émission.
Charmante petite souris. Alors, on va commencer sans plus tarder l'émission sur les sempiternels, les admirables. News de Ben.
Ben oui, cette semaine, encore des news, toujours des news. Et on a appris que Daniel Craig avait répondu à l'odeur de l'argent déployée par les producteurs de la saga James Bond, puisqu'il a accepté de reprendre le rôle titre une nouvelle fois.
Sérieux, il avait pas dit que c'était son dernier?
Oh, il a dit que c'était un carnage, que c'était un bordel, quoi, enfin qu'il en pouvait plus. Mais il a quand même réaccepté.
D'accord, ok. Voilà.
Donc, à noter qu'il travaille en ce moment sur un film de Steven Soderbergh, le génial cinéaste, scénariste, producteur, qui a déclaré prendre sa retraite tellement de reprises qu'on n'y croit plus. Voilà.
Ouais, moi je me souviens de la fois qu'il avait dit qu'il prendrait sa retraite, c'était sur le film là avec. Comment s'appelle-t-il? Michael Douglas.
Oui, Liberace.
Là, ma vie avec Liberace.
Là, en ce moment, il n'arrête pas. Du coup, le film s'appelle Logan Lucky et mettra en scène Channing Tatum, Daniel Craig, Hilary Swank, Adam Driver, qui l'aurait dans Star Wars 7,
oui.
Et Riley Keough. Donc Tatum et Driver incarnent deux frères qui élaborent un plan pour commettre un braquage durant une course de NASCAR à Charlotte, en Caroline du Nord. Sortie prévue en 2017. Watchmen devrait arriver en série télévisée. Alors, rassurez-vous, personne ne va remaker le film de Zack Snyder sous la forme d'une mini-série ou d'une série. Non, il s'agirait d'adapter les récits des Minutemen, qui est le groupe de super-héros qui a précédé celui des Watchmen. On les découvrait déjà dans le roman graphique original, hein, celui qui a été publié entre 86 et 87, donc,
ouais.
Écrit par Moore et Gibbons. Donc Gibbons qui était quand même plus dessinateur qu'auteur, et donc via des flashbacks ou directement en découvrant les individus qui étaient vieillis dans le récit, et pour ceux qui restaient d'ailleurs, parce qu'il y a eu beaucoup de morts, et ils ont été...
Tu dis ça avec la plus platitude du monde, ils sont morts, ils sont morts mec.
Non. Et ils ont donc été remis en scène plus tard dans une série de comics qui s'appelle Before Watchmen,
oui,
qui est assez actuelle.
Qui est superbe.
Donc, série publiée par DC Comics à partir de 2012 et comptant 37 numéros. Tous les récits sont des préquels à Watchmen, mais sont écrits par différents auteurs, et de très grands d'ailleurs, du monde des comics. Donc, je pense à Brian Azzarello, pardon, à J. Michael Straczynski ou encore à Len Wein. En auteur, et du côté des dessinateurs Andy et Joe Kubert, qui ont déjà dessiné du Batman formidablement, il y a Liberme Joe et Darwin Cook, qui est aussi auteur d'ailleurs. Donc les numéros constituent des histoires tout à fait différentes, des récits coupés avec leur propre auteur et dessinateur donc, et on trouve par exemple Before Watchmen Minute Men, ou encore Before Watchmen Dollar Bill, donc, qui suit Bill Brady, un super-héros sponsorisé et corporated, donc ça rappelle The Boys dont on a parlé la dernière fois. Donc qui fait partie, ou qui appartient plus exactement à une société.
Il va pas aux putes, lui, au moins.
Non, mais il fait partie
vulgarité.
Des...
Bah, c'est comme ça dans The Boys. Hein,
il fait partie des Minutemen, du coup, lui aussi.
D'accord.
Donc si vous avez du mal avec...
Minutemen. Les Minutemen, le jus d'orange, là.
Non, chut, Minutemen. Donc si vous avez
ça
du
manque
mal...
d'un jingle blague. Quand même.
Ouais, je trouve aussi.
Je vais essayer de ressortir un petit truc comme ça.
Si vous avez du mal avec l'anglais, sachez que le tout est sorti en France, publié par Urban Comics. Et on va terminer ces news avec un extrait de la musique Pruitt and Prophecies, composée par Philip Glass et utilisée dans le film Watchmen. Qu'importe la version d'ailleurs, mais on en discutera une autre fois.
Thank you.
Voilà, vous ne vous êtes pas endormi au volant de votre voiture. vous écoutez toujours PFM. Merci Benjamin pour cette petite interview musicale. Bon, on rigole, mais la musique est quand même très très belle.
Elle est formidable.
Qui est le compositeur de...
Philippe Glass,
c'était moi.
C'est un compositeur contemporain et je vous conseille de le découvrir, il est formidable.
D'autres films en particulier que Watchmen ou...
Non, en fait, c'est une musique qui a été composée à part, mais qui a été réutilisée pour Watchmen.
Ok,
d'accord.
Ok. Du coup, maintenant, on va passer. Bah, déjà, merci, Benjamin. Merci.
Bah, de rien.
Et on va passer à notre ami Ange qui va nous parler. Je ne vais rien dire.
Tout à fait.
On va vous laisser deviner.
Donc, il est temps de vous parler d'une série qui me tient à cœur, une série avec des dragons, des noms compliqués, des rois. Des reines, de l'amour, des combats, des guerres.
Seigneur des Anneaux.
Game of Thrones.
Une série au succès fou. Ah ah ! Une série qui rassemble un grand nombre de fans grâce à sa magie.
Game of
Vous l'avez bien compris.
Game of Thrones.
Attention, attention, attention. Je parle bien entendu de...
Game of Thrones.
Kaamelott.
Oh, on venait de se checker en plus avec Antoine, on était content.
Je vous ai bien eu, les petits loups.
Ouais, non, mais on s'est fait.
Oui, grand coquin.
Comme des grands. Non, je vais pas le dire. Alors, eh oui, la fameuse série française créée de toutes pièces par Alexandre Astier. Donc, il s'agit, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, d'une série diffusée depuis 2003 sur nos écrans. Elle retrace la légende arthurienne avec humour, tendresse et papillon, agrémentée de punchlines qui viennent de derrière les fagots, avec leurs expressions tarabiscotées. Et j'ai envie de me dire à moi-même, ce n'est pas faux, parce que j'ai du mal à me comprendre moi-même. Alors, c'est une série qui divise, disons-le franchement, le public. Donc le public accroche carrément ou pas du tout, ce qui est compréhensible parce que l'humour de Kaamelott est tout à fait singulier.
Oui, bien sûr.
On se mentira pas là-dessus, c'est tout à fait décalé.
C'est très franchouillard.
Oui, tout à fait. Il est aussi en fait entre l'humour des Monty Python
oui,
en passant...
Temps, mais...
Oui, bon, mais bon, ça dépend quand même des moments. Donc il est aussi entre l'humour des Monty Python en passant par Louis de Funès et les comédies familiales. Des nouvelles générations, Kaamelott est une réécriture de la légende arthurienne pour faire découvrir au public cette fantastique histoire. Réécriture parce que tous les personnages originaux ne sont pas présents, et surtout parce que les vrais héros de l'histoire ne sont pas les plus fut-fut. Faut le dire.
Donc, c'est pas faux.
Hein ?
C'est pas faux.
Qu'est-ce que t'as pas compris ?
C'est pas faux.
Mais qu'est-ce que t'as pas compris dans tout ce que j'ai dit là ?
Mais c'est parce que c'est péremptoire.
Ah d'accord. C'est pas faux.
Voilà, petite blague sur Kaamelott.
Voilà, tout à fait. Donc je l'accorde, il faut parfois s'accrocher à l'humour de cette série. Donc comme là, on vient de l'entendre avec le fameux « c'est pas faux ». Mais bon, celle-ci se divise en un épisode allant jusqu'à 5 minutes pour les 4 premiers livres, ou saisons, si vous préférez. Donc vous avez le temps d'en regarder quelques-uns pour vous faire une idée. Le livre 5 et 6 sont totalement différents en ce qui concerne le format. Ce sont des épisodes plus longs, parce qu'Alexandre Astier... voulait voir sa série évoluer, bien que la chaîne de diffusion l'a forcée.
On est sur du métrage, là, enfin, complètement.
Maintenant, on est sur du format normal, en fait, de série.
3 quarts d'heure, quoi.
Ouais, voilà, à peu près.
Et puis, c'est beaucoup plus sérieux aussi.
Ouais.
Justement, c'est ce que j'allais dire. La magie de Kaamelott reste présente dans les épisodes des livres 5 et 6. Ça a l'air sérieux, mais c'est le format, en fait, qui fait ça.
Mais je trouve que c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus.
Oui, la fin du livre 5.
Un peu plus sombre aussi.
C'est plus épique.
Sur le passé du roi Arthur, par exemple.
Le livre 5, c'est totalement une autre quête que la quête du Graal. Oui. Donc du coup, c'est sûr, c'est beaucoup plus sombre. Mais en fait, on garde quand même l'essence même de l'humour de Kaamelott à l'intérieur sur certains passages. Et c'est ça qui est bien, on n'en perd pas la matière.
Même du coup, parfois l'humour est un peu grave quand il y a... Comment il s'appelle cet acteur qui jouait dans la 7ème compagnie qui a fait plus
Pierre Mondi.
Pierre Mondi. Je me suis chié dessus. Et il y a cette tristesse...
C'est triste, mais c'est tellement drôle aussi.
C'est ça, je trouve ça formidable.
Mais... C'est pas le fait qu'il se soit chié dessus hein, qui est drôle, mais c'est juste la manière.
Il le dit, c'est assez terrible.
Quoi. Ah non, mais en termes d'écriture, puis en termes d'acteur, il est bien servi à ce
niveau. Ah oui. Il a un très beau palmarès.
C'est lui qui écrit en plus, du coup.
Ouais. Ah ouais. C'est génial.
Et donc, les scénarios sont disponibles, il faut le dire.
Oui, c'est des romans. C'est en roman que vous pouvez trouver chez le libraire. Il y a même les BD. Mais les BD, attention, je le précise tout de suite, ce n'est pas du tout les épisodes de Kaamelott retranscrits en bande dessinée. Ce sont à des moments, on entend des passages de leurs aventures, mais qu'on n'a jamais vu en épisode. Et ils les ont fait en bande dessinée. Donc, par exemple, je reprends l'histoire du tabouret de transport, là, du siège de transport dont on entend parler par Perceval, qui est une BD à part entière.
D'accord.
Et qui est tout simplement génial. Même les bandes dessinées sont vachement cool à lire. On retrouve carrément l'humour, même si c'est différent à la lecture. Ça se lit quand même et c'est génial. Donc si vous aimez pas la série, essayez au moins les livres ou les bandes dessinées.
C'est un univers étendu, hein, de toute façon.
Oui, c'est énorme.
Sur plusieurs supports et c'est assez fun. On peut le retrouver partout.
Ben oui. Et donc, Kaamelott s'adresse à toute la famille, mais en particulier à un public geek. Mais ça, ce n'est que pour apprécier d'autant plus la plupart des références faites à différents univers. Ainsi, nous retrouvons du Star Trek, Star Wars et même du Superman. Donc, je vous laisse chercher. Hein. Ça, c'est surprise pour ceux qui n'ont jamais vu ou qui n'ont pas fait attention. Donc, parfois, subtil ou non, ces références permettent de rapprocher l'univers de la série au nôtre, un peu comme un visiteur, ce qui fait vachement plaisir et c'est appréciable. On se retrouve un peu vraiment dans le... Enfin, je sais pas, quand on les voit parler, moi j'ai eu l'impression de voir des personnes comme nous, de notre époque, en train de discuter, et c'est ça qui est vachement bien. On arrive à se balader dans les univers.
Ce qui est bien aussi, c'est que les références sont quand même plutôt anecdotiques, quoi. C'est pas...
Ah oui.
Ils en jouent pas...
Ils en font quand même... Enfin, souvent, quand t'as une anecdote, c'est un épisode complet, quoi.
Ouais,
mais
parfois,
un épisode de 5 minutes.
Parfois, l'anecdote, elle est dans le titre, genre Hit, tu vois.
Oui, voilà. C'est ça aussi, précision. La plupart des titres des épisodes sont des références à soit des chansons, des livres, des bandes dessinées. Il faudrait rechercher chaque titre de chaque épisode pour bien se référencer et savoir ce qu'il a lu, ce qu'il a vu. Enfin, voilà, mais c'est énorme. Tout ce qu'il nous propose dedans, c'est vachement génial. Donc, c'est une mine d'or de l'humour décalé et parfois ridicule qui rend les personnages tellement drôles que je vous invite à voir. Si vous ne l'avez jamais vu, et même si vous avez du mal, laissez-vous le bénéfice du doute et souvenez-vous que c'est à son créateur que nous devons le magique Astérix, le domaine des dieux, ou même des spectacles tels que l'Exoconférence ou Que ma joie demeure. Il a eu un prix pour chacun d'eux, quand même. Donc une série dédiée à Louis de Funès, qui plus est, et qui aura prochainement sa suite en trilogie. Et pour le plaisir, je vous laisse avec une bonne petite astuce de la part de Caradoc.
J'ai jamais su ce que ça voulait dire, sinécure.
Moi non plus. Quand vous comprenez pas, vous dites « c'est pas faux ». Comme ça, vous passez pas pour un glandu. C'est ma botte secrète.
C'est pas faux.
Et vous écoutez bien les décadrés sur PFM 99.9, qui sont aussi sur le site de PFM 99.9, qui sont aussi sur Mixcloud.
Ils sont partout.
Ils sont partout.
On est partout, on est
décadrés. Et donc, Antoine va nous parler d'un surfeur, le roi de la glisse.
Le surfeur d'argent.
C'est ça. Non, pas du tout. Non, là, c'est un film français. Alors d'ailleurs, il est sorti il y a 5 jours, le 19 octobre, au cinéma, Le Retour de Brice de Nice, le célèbre personnage Yellow de Jean Dujardin. Et donc oui, Brice 3. Et si vous n'avez pas vu le 2, c'est normal, parce qu'en fait, le 2, Brice, il l'a cassé. bim badaboum, grosse punchline bien salée qui montre que Jean Dujardin sait mettre en dérision son personnage de Brice, mais Dujardin en fait qui a dit aussi apparemment qu'il était très fier d'avoir fait ce film et qu'il avait pris énormément de plaisir à l'écriture de ce faux troisième volet. Alors au scénario on retrouve donc le grand oscarisé Jean Dujardin et aussi à la réalisation James Hutt. Ouais. Alors James Hutt qui a réalisé le premier Brice, ouais. Qui a réalisé Lucky Luke notamment, Elphone, Serial Lover, donc moins de succès critique.
Surtout Elphone.
Surtout Elphone que le premier Brice, par exemple, hein, et surtout beaucoup moins connu ou répandu. Et certaines sont carrément tombées dans l'oubli. Hein. Moi, Lucky Luke, ça m'était complètement sorti de la tête.
Il y a eu un succès, enfin le succès public n'était pas du tout là. Quoi.
Non, non, il n'y a même pas eu de succès public. Moi, je me souviens, je suis allé voir au cinéma, mais j'avais complètement zappé. Et voilà, des films qui, pour la plupart, sont quand même tombés dans l'oubli. Et quand tu te souviens qu'ils sont sortis, tu dis ah ouais, merde, ça a vraiment existé tout. Tu vois, c'est pas très sympa. Bon, c'est pas très c'est sympa, sûr. Je plaisante. Et en plus, moi personnellement, j'ai quand même passé un bon moment sur Elphone. Hein. Plus sur Elphone que sur Lucky Luke.
Moi, j'ai un mauvais souvenir de cette session
c'est
au cinéma.
C'est peut-être à cause de Jean-Baptiste Meunier.
Peut-être aussi.
Bon, voilà, on va pas s'étaler là-dessus. Et puis, je ne suis pas là pour critiquer le travail de James Hutt. Et en plus, pour tout vous avouer, j'ai pas vu Brice 3. Alors, du coup, pourquoi je vais vous parler de Brice 3 ? Alors, tout simplement parce que je voudrais vous parler du côté coup de pub promotion qui a été fait autour du film. Tout d'abord, il y a eu un clip de rap, une chanson avec deux jeunes rappeurs talentueux qui s'appellent Big Flo et Oli, et qui sont en featuring avec le roi du casse contre casse. Mais il y a eu aussi encore mieux, puisqu'un certain B. Agostini a publié il y a plus d'une semaine le film sur la page YouTube. En fait, il a partagé le film sur sa page YouTube, et là donc j'ai sauté sur l'occasion de regarder le film dans mon canapé installé à siroter, un bol de thé et un bol de nouilles.
T'as cru que t'allais voir tout le film ? Oh non ! Oh la casse ! T'as cru que t'allais voir tout le film, tout mon film ? En plus, c'est même pas le bon début !
Et oui, voilà, Brice qui vient te ramener les pieds sur terre avec un gros casse sur l'écran que tu es en train de regarder. Bon, t'as pas l'air con. Mais évidemment, c'était trop beau. Mais en même temps, je trouve que ce troll, justement, ça révèle quand même un pur coup de génie en termes de pub. Alors en fait, le film se coupe d'un seul coup sur le faux début de Brice. Et Jean Dujardin, il vient en Brice de Nice et il nous remet les pieds sur terre. Et après ça, c'est 1h30 de rien. Hein, faut savoir, j'ai regardé les 1h30
ouais,
de rien.
C'est très très long.
C'est Brice de Nice qui est dans un salon, enfin dans une espace blanc. Je suis sûr qu'ils ont posé la caméra et qu'ils lui ont dit bah tiens, Jean, fais tes trucs.
Il va dormir.
Il va dormir, il va regarder la télé. Il va regarder le film, il va le commenter de temps en temps. Il va bouffer, il va casser des trucs et puis il va faire il va faire tomber un gobelet.
Et ça termine.
Et ça se termine comme ça en fait. Sur
le générique.
Sur le générique du film.
Le vrai générique du film. Il dit même voici le vrai morceau. Là, tu vas voir un vrai morceau du film.
Il semble un truc dans ce genre-là. Et bon, c'est un coup de pub quand même qui a quand même bien marché parce que on est quand même à 2 466 500 vues. Hein, c'est quand même assez conséquent.
C'est sûr.
Et ce qui a permis aussi de faire une petite polémique autour du film, justement. Alors, moi, après, j'aimerais bien qu'on en discute tous ensemble de ce petit coup de promotion. Voilà ce que vous en avez pensé. Et vous, n'hésitez pas non plus, chers auditeurs, à laisser un commentaire sur la page Facebook, YouTube, ou. Pas YouTube, Mixcloud en partageant. N'hésitez pas. Et sur ce, on va se laisser d'abord écouter le petit morceau de Big Flo et Oli en featuring avec Brice de Nice.
Tout à fait.
Souvent arrête un peu, tu vas te mettre dans la merde. Tu sais la vie c'est pas un jeu, tu crois qu'il ferait pareil pour toi.
Alors les gars, expliquez-moi, un pote c'est quoi exactement?
Un genre de frère présent à chaque moment quand parfois t'as la nausée, à deux doigts d'exploser. La seule chose sur laquelle tu pourras te reposer.
Ouais moi j'ai mon lit pour ça.
Non Brice tu comprends pas ce qu'on te dit. Ton ami c'est ton seul rempart.
Et la famille?
Et la famille c'est pour la vie. Mais y'a celle par défaut et y'a celle que tu choisis.
Mais ça me rapporte quoi?
Rien, à part des rires et des galères.
Donc pas le fric et le salaire?
Non rien, et écoute bien. Si tu te perds en chemin, il donnerait tout ce qu'il a pas si t'en as vraiment besoin.
Les gars merci, je crois que j'ai compris la valeur d'un ami. Le seul qui pourrait surfer avec moi le jour d'un tsunami. Quand parfois j'ai la nausée et que mon cœur pèse des tonnes. Donc les gars, on est potes.
C'est vrai?
Non je déconne.
Je pourrais sortir le katana.
Ouais ou pas.
Dormir avec des piranhas. Ouvrir un bar dans le Sahara. Tu lui dire ça va si ça va pas. Prendre le premier avion pour Rio. Lui garder un rein dans le frigo. Je pourrais faire le tour de la terre. Mentir à sa mère. Je pourrais
Souvent arrête un peu. Tu vas me mettre dans la merde. Tu sais
c'est la vie, c'est pas un jeu. Tu crois qu'il ferait pareil pour toi? On me dit souvent arrête un peu, tu vas mettre dans la merde. Tu sais la vie, c'est pas un jeu. Tu crois qu'il ferait pareil pour toi?
Alors, petit morceau sympathique signé Big Flo et Olive en featuring avec Jean Dujardin qui s'appelle Pour un pote. Alors les gars, je sais pas si vous avez regardé justement cette petite, ce petit film, hein, on va dire en quelque sorte. Et ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous pensez de ce coup de pub? Est-ce que vous avez d'autres exemples de coups de pub comme ça pour des films qui vous ont sauté aux yeux?
Il y a eu Deadpool forcément.
Deadpool, les messages de com étaient juste géniaux.
Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui peut rappeler justement Deadpool pour les auditeurs qui peut-être n'ont pas vu?
Il y avait des micro vidéos, il y avait aussi des images, par exemple, il y avait comment ça s'appelait
Ils n'avaient pas fait semblant que c'était un film
comédie romantique, parce que ça sortait en février, il me semble.
Exact, ouais, le jour de la Saint-Valentin.
Ils avaient mis pour la Saint-Valentin
une affiche.
Ils avaient fait une affiche, on aurait dit une comédie romantique.
Mais ils avaient fait à Noël aussi. Il avait fait plein de vidéos, même des fausses interviews où tu voyais Deadpool qui passait pendant une interview, Deadpool qui se ramenait et qui tuait le journaliste ou un truc de ce genre-là. On a eu aussi les affiches de Deadpool,
oui.
Mais sur Batman vs Superman.
Je ne me souviens pas.
Si, il était venu, puis il barrait en fait les affiches et il disait ça c'est de la merde, venez me voir moi. Mais ils avaient fait des affiches comme ça, des vraies affiches où c'était déchiré ou je sais plus quoi. Et, si, il y avait. C'était génial.
Et d'accord, vous avez d'autres exemples peut-être?
Il y en a un où le film, j'ai totalement oublié ce que c'était, mais c'était vachement cool parce que j'ai oublié.
C'était très intéressant.
C'est ça, je viens de retrouver. Il mettait en fait plein de scènes de film dans la bande-annonce, mais toutes les scènes de film qu'on voyait dans la bande-annonce ne faisaient pas partie du film.
Ah, mais c'est Tonnerre sous les Tropiques.
Non, ça c'est des bandes-annonces. Non, il y a vraiment un film où je me rappelle, il y a plein de scènes d'action qu'on voyait dans la bande-annonce, mais en fait elles faisaient pas partie du film qui est sorti au cinéma.
D'accord, ok.
C'était juste pour faire venir les gens, et puis au final ils voient un autre film totalement.
Il était bien ce film.
Je ne sais plus, je sais même pas si je l'ai vu, je me rappelle de la bande-annonce.
Ça, ils l'ont fait dans les jeux vidéo. Il y a un jeu qui m'a extrêmement frustré, c'est le pouvoir de la Force 2 sur PS3 et Xbox, parce qu'il y avait une planète enneigée où on trouvait Dark Vador qui combattait, et on l'a jamais vu.
C'est peut-être plus dans un jeu que dans un film alors, mais je sais qu'il y a eu des histoires comme ça où on voyait des actions dans une bande-annonce mais qui ne faisaient pas partie du film.
D'accord, bah après c'est vrai que dans le cas des jeux vidéo c'est un truc qu'on peut retrouver souvent, enfin après c'est encore différent, là on parle de fausses pubs, mais après enfin le problème c'est que le souci je trouve par exemple que j'ai eu avec Brice Denis c'est que c'est très bien en fait, mais c'est juste un coup de buzz la plupart du temps. Dans le cas de Brice la 3 c'est vraiment un coup de buzz, c'est pour faire patienter les gens, et pourtant c'était quand même à quelques jours de la sortie, c'est vraiment pour marquer le coup, mais du coup il n'y a pas de, à part la portée de je veux dire on va ramener plus de gens en faisant une espèce de buzz, est-ce que j'ai pas l'impression que la vidéo, le coup de pub rapporte vraiment quelque chose en fait, je sais pas si tu vois ce que d'un point de vue artistique
ouais,
en fait, sur le
il y a une critique des téléchargements en ligne quand même,
ouais je pense,
mais
ouais.
Sinon pas du tout, je crois que c'est se foutre de la gueule, attirer, et surtout il y a un nom pour ce type de buzz,
c'est troll.
C'est même pas encore ça, c'est le truc, ça envahit, ça va envahir tous les réseaux sociaux, ça augmente un peu comme un tissu, une toile d'araignée, tu vois.
C'est buzz.
Il y a encore un autre nom, mais je ne sais plus.
C'est bien pratique. mais après, c'est vrai que voilà, c'est quand même un joli coup de pub, hein, c'est quand même assez balèze d'avoir fait ça, je trouve. Mais c'est vrai que bon, ça n'apporte rien de plus au film. Et moi, personnellement, c'est vrai que je trouve ça un peu du foutage de gueule, quelque part, un petit peu, de faire ça. J'aime pas cette idée de buzz en fait pour faire tourner un film. C'est pour moi un film, si tu vas le voir, c'est qu'il te donne envie, il faut pas y aller juste parce qu'il y a un mec qui fait le con. Après c'est vrai que j'ai pas vu le film, du coup je peux rien dire. J'ai bien aimé le premier Brice. Après on peut s'attendre, voilà, moi je pense sûrement à une belle petite surprise en fait, hein, au final.
Le truc c'est que ça fait peut-être du buzz dans ce qu'il fait en fait avec cette vidéo, mais c'est en même temps ça peut calmer les rageux sur ceux qui veulent voir justement sur YouTube les films, et c'est ça qui est pas mal, le propos en fait il est pas mal déjà à la base. Après est-ce que ça fait le buzz ou non, enfin ça après je m'en fous un peu, je pense, je suis même pas sûr, ça va faire rire les gens, mais il y a personne qui a regardé la vidéo en intégrale, donc du coup
si moi j'ai fait
oui mais toi ouais. Tu es un dingue,
ouais. Il y a des trucs très drôles, hein.
Nous aussi on fait le buzz, on a 9 personnes qui nous regardent en direct,
ouais,
on
direct,
ça 4
4-3 maintenant.
4-3, voilà. Du coup, voilà, bah, c'est tout pour cette émission décadrée, je pense. On a fait le tour de toutes les chroniques.
Bah, pas du tout, j'ai encore la mienne. Merci.
Non, il n'y a pas la tienne.
Bah, elle est là.
Mais non, on s'en fout.
Le mec voulait faire on le buzz, du coup il veut faire un clash.
Exactement.
On boycotte, on boycotte.
Bon,
on
allez, parlons sérieusement.
Oui, alors Ben, du coup tu vas nous parler de ta série. Tu vas nous parler de ta chronique. Alors, de quoi tu vas nous parler, mon petit Ben?
Eh bien, aujourd'hui je voulais vous parler d'un petit film, de ce que j'appelle un film document, qui est présent dans les bonus du Blu-ray et du DVD de Crazy Night, qui est un film de Sean Levy sorti en 2010. Et le film bonus dont je vous parle est de par sa nature de bonus, bah, sur une palette donc, de DVD ou Blu-ray, un objet promotionnel, donc on parlait de pub. Mais si je dis document, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que sur pas mal de belles éditions Blu-ray ou de beaux coffrets de DVD, il y a des films documents qui sont courts, donc des films documents courts, donc qui sont soit des bonus qui documentent, qui nous apprennent des choses, qui nous exposent des choses, sans pour autant nous vendre comme des salauds le film star du boîtier Blu-ray DVD. D'ailleurs, je dis film, mais ça pourrait être une série. Hein. Et là, je vise discrètement. J'ai dit discrètement. Ali McBeal et ses bonus vendeurs stéréotypés, boursouflés d'ego et avares en information d'une émission de téléachat. Passons. Alors, le film document en question s'appelle. Bon, en fait, c'est tout simplement une journée de tournage en classique sur le plateau, quoi. C'est ça, voilà, il n'y a pas de nom. Okay, et je conseille vivement donc aux amateurs de cinéma, aux cinéphiles, ou ceux qui se considèrent comme tels, ou encore à ceux qui parlent cinéma sans savoir en parler du genre « Non, mais le scénario est mauvais !» alors qu'ils confondent l'histoire avec le récit, les dialogues, l'écriture des personnages et plein d'autres éléments, et ben je le conseille. Donc dans ce film document, Sean Levy, donc, qui est le réalisateur des Amusants et Familiaux, La Nuit au Musée, 1, 2, 3...
J'ai pas vu le 3.
Ou encore du surprenant Real Steel avec Hugh Jackman.
Ouais.
Donc il va nous présenter aussi tiens de 13 à la douzaine du premier.
Ah ouais, c'est lui.
Ouais.
Ah ouais.
Et donc il nous présente
De toute façon, j'aime pas.
Oh, tais-toi.
Ouais, je me rappelle plus.
Donc il nous présente en une vingtaine de minutes le tournage des deux scènes de nuit de Crazy Night. Donc le bonus démarre en fin de journée où l'équipe se prépare en attendant la nuit. On a des titres bon enfant qui viennent avec des coups de trompette nous inviter du genre votre professeur Sean Levy, niveau 3e année, prérequis 2e et première année. Et on va découvrir sur ces tournages différents postes essentiels, donc le premier assistant réalisateur qui est aussi le producteur délégué, le directeur de la photographie, le monteur qui avance sur le montage alors que le film n'a pas encore fini d'être tourné, mais ça permet d'anticiper les éventuels reboots, les éventuels reshoots, donc voilà Star Wars, Rogue One ou quoi, il y en a eu pas mal. Il y a le cadreur, le coordinateur de cascade, le clapman, la superviseuse du script, le capitaine des transports des décors matériels, bref du tournage, donc la régie si vous voulez, l'assistante du réalisateur qui doit gérer les échanges d'informations entre le réalisateur et l'équipe, d'ailleurs elle doit gérer aussi la priorité des informations qui doivent arriver au réal, donc c'est assez particulier. Il y a l'assistante production qui doit gérer les passages des gens sur le plateau. Donc là, il expliquait dans le document Terre que ça peut être difficile de filmer de nuit à côté d'une boîte de nuit parce qu'il y a beaucoup de passages. Et encore, on a l'équipe qui installe par exemple les travelling et bien d'autres éléments. Et puis il y a les acteurs quand même, parce que bon, c'est ceux qui passent le moins de temps possible sur le plateau.
Ouais.
Voilà. Et on les emmène d'ailleurs où ils le désirent entre la fin du tournage d'une scène et le début d'une autre. Ils ont même le droit d'aller à l'hôtel, enfin ils font ce qu'ils veulent. C'est pas mal. Donc du coup, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. On nous emmène sur deux plateaux. Et on va chevaucher. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du premier tournage, on arrive sur le deuxième plateau qui a déjà été préparé avec le directeur de la photographie. Tout est déjà quasiment prévisualisé. Et j'ai trouvé ça, donc ce film document judicieux, intéressant, autant pour ce qu'il nous raconte que dans sa manière très ludique de le faire. Et d'ailleurs, je pense revenir sur la manière dont travaille Sean Levy avec ses acteurs, car c'est, je trouve, plutôt intéressant de travailler comme il le fait, et puis c'est très curieux. Et avant de terminer, une petite question, les gars. Qu'est-ce que le plan Martini ?
C'est
quand on remplit le verre.
Non, c'est le dernier plan de la journée.
Ah bah oui, bah
on
si,
appelle ça
c'est l'apéro.
Le plan Martini. Donc voilà pour moi. Et qu'est-ce que vous pensez de ça ? Qu'est-ce que vous pensez de
du plan Martini ? Non, je trouve que c'est une bonne idée.
De l'éducation à l'image. Est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant ?
C'est absolument
très
pas.
Très intéressant.
Absolument pas. C'est pour ça que tu fais des ateliers, toi.
Exactement.
Puis qu'il est en ce moment même en train de filmer en direct l'émission.
Voilà.
Pour faire de la com, on va faire un coup de pub.
Alors par contre, nous sommes en enregistrement, ce qui fait que vous aurez beau écouter l'émission. Là,
vous ne verrez
ce
jamais
lundi à 14h30, vous ne verrez pas le direct en direct.
Non, jamais. Non. Jamais du tout.
Ça sera du direct.
Ne regardez surtout pas.
Voilà.
Si vous êtes au volant, ne sortez pas votre portable.
Bah écoutez, c'est la fin de l'émission.
Oui, exact, c'est la fin de l'émission.
Tout à fait.
Et donc on vous souhaite une bonne semaine, fin de semaine.
Ah, surtout un bon début de semaine, et puis on se retrouve sur la rediffusion la samedi.
Quoique oui, donc un bon début et une bonne fin de semaine.
Exactement.
Si vous nous écoutez le samedi.
Bon début et bonne fin de semaine, mes amis.
Ciao.
Ah, ciao, bonsoir.
Ciao.
1, 2, 1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix plus claire?
Good morning, Vietnam!
Are you ready?
Tonight we present a very warm little story called Kill with Time.
On a un peu dans le studio, on laisse voir, on lui met un casque, il parle dans le micro.
Il suffit que tu fermes ta gueule. Chaque fois, je te laisse à l'antenne.
C'est cool, ça va arriver les voisins.